cette fois-ci une histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, atypique, où il n'y a pas de jeteur de sort. C'est un récit extrêmement réaliste qui concerne un Auvergnat avec avare, comme le sont tous les Auvergnats. Il n'y en a pas ici, j'espère. Le récit va glisser peu à peu, on ne va pas rester dans le réalisme, mais le récit va glisser peu à peu vers le fantastique, voire même des faits horrifiques que je vous laisse découvrir. Voilà donc l'histoire de l'Auvergnat, avec un Auvergnat, comme on les aime. Y a-t-il des mots difficiles pour comprendre l'histoire ? Ah, alors, ce qui est amusant, c'est que le texte commence par une petite préface. Si vous êtes allé il y a 2 ans à l'exposition organisée par les archives à la maison des jeunes de Saint-Just, on nous en a parlé de cette introduction qui, en principe, précédait tous les contes. Alors, qui en général commençait par cric-crac, etc. Et l'introduction était toujours en français et on ne l'a pas vue dans les 2 contes précédents, mais elle va se trouver dans l'Auvergnat. Donc, ça va commencer par cric-crac, sabot, cuillère à peau, etc. Je vous la lirai après. Donc, après, dans le texte, vous avez le verbe chiner. Alors, chiner n'est pas proprement local, c'est un verbe argotique qui signifie baratiner, pour essayer d'obtenir quelque chose. Alors, chiner et la Chine, on l'entend quelquefois quand on veut plaisanter avec quelqu'un, se moquer, mais on l'entend aussi dans la langue des brocanteurs, chiner, c'est baratiner pour essayer d'obtenir quelque chose. Ensuite, vous avez le nom de deux soupes, classique, le bouillon pointu, qui est aussi appelé dans la région le bouillon branlant et qui s'oppose au botassa. Alors, un bouillon pointu, c'est de l'eau dans laquelle on fait cuire un ou deux légumes. Finalement, c'est à peine plus que de l'eau, je dirais, hein, et ça se boit. Alors, qui s'appelle aussi le bouillon branlant, selon les endroits, alors que le botassa, à l'inverse, c'est une soupe qu'on a tellement fait cuire et recuire que quand vous plantez la cuillère, elle reste pratiquement debout dans cette soupe très épaisse. À un moment, l'Auvergnat s'achète un hareng sort qui, dans le texte, s'appelle un gendarme, mais ça, c'est pas proprement local. C'est argotique. Hein. Après, vous avez le bocon. C'est un mot de français, mais qui, je crois, s'emploie de moins en moins pour désigner la grippe. Quelquefois, on entendait autrefois les gens dire « j'ai attrapé le bocon » ou « le boucon ». C'est pas proprement régional. Hein. Bon. Après, alors, un mot typiquement régional que je pense tout le monde connaît, c'est « petaffiné ». Alors, il l'a bien petaffiné pour dire qu'il l'a bien endommagé ou bien abîmé ou bien gâché. Hein. Mais c'est un mot sympathique. Je rappellerai l'origine sur un numéro de Chamblambi. Alors, on retrouve le fenêtron, le crésier. Ah, le crapaud est ici appelé justement le pousse-vache, parce que comme il boit le lait à la pousse de la vache, enfin, on croyait qu'il buvait le lait à la pousse de la vache, on l'appelait avec un nom composé le pousse-vache. Alors, ce qui est typique de ce conte sur l'Auvergnat, c'est qu'il s'agit de traiter les Auvergnats assez mal. Ce sont des gens d'une avarice crasse, mais on aime bien se moquer d'eux et de leur accent. Alors, par exemple, l'Auvergnat est colporteur et passe dans les fermes et les maisons pour vendre des choses qu'il traîne sur le dos. Et au lieu de dire qu'il vend de la toile, il dit avec l'accent auvergnat qu'il vend de la tchale. Au lieu de dire manger, il dit en auvergnat ragouiner. C'est une façon de se moquer de lui. On retrouve le fait que je vous ai dit tout à l'heure. On désigne les femmes par le nom du mari en ajoutant un « e ». Le chapet devient la chapette. Une affaire, je l'ai déjà dit. Une grande carne, c'est une grande vache maigre. Ah, alors, le patia, je ne sais pas si à Chambles vous faites du patia. Oui. C'est des pommes de terre cuites très longtemps dans la crème. Moi, je n'en ai jamais tellement mangé, mais il paraît que c'est proprement délicieux. Après, vous avez l'adjectif recru qui est français, hein, mais qui est un peu démodé, qu'on entend moins. Et puis vous avez la cancorne, qu'on a vu l'an dernier, ou dans le dernier des trois contes. La cancorne, c'est celle qui rabâche toute la journée. Cancornée, c'est rabâcher. Alors donc, voilà le troisième conte. Qui commence donc, comme chaque fois qu'il y a cette introduction, par une petite partie en français. Vous ne vous faites pas la différence, parce que de toute façon, tout est écrit en français en dehors de quelques mots. Mais là, même dans le conte en patois, c'était écrit en français, les quatre ou cinq premières lignes. Allons drôle, si tu veux ton conte, dis d'abord la préface, puis après, nous commencerons. Cric, crac, sabot, cuillère à peau. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. J'oublierai pas de vous dire, tout en vous disant, que la merde de chien est pas d'ongon. Si vous voulez pas me croire, goûtez-en. Arrive le conte. Il y avait une fois un Auvergnat. Un Auvergnat qui était venu chez nous, par-dessus les montagnes, pour vendre de la tchale, comme ils disent, de la toile, et bien d'autres affaires, des couteaux, des ciseaux, de la dentelle, enfin quoi, plus d'une bricole. Avare, comme tous les Auvergnats, très bon goût, qu'il en aurait fait péter la tête au ver de terre. Ah ça, j'ai oublié de vous le dire. Quand les gens étaient très avares, on les soupçonnait de faire péter la... Je fais le geste, comme si je le faisais tous les jours, de faire péter, c'est-à-dire écraser la tête des vers de terre pour les manger. Donc, notre Auvergnat est de cette espèce. Donc, avare comme tous les Auvergnats, très bon goût, qu'il en aurait fait péter la tête au vers de terre. Il n'avait point de cheval. Il portait son sac sur l'échine et il demandait le foin par les fermes à bord de nuit. Une fois qu'il avait bien chiné, la maîtresse, à qui il avait vendu des torchons, des mouchoirs de poche, un almanach, une savonnette, il se faisait alors petit tout, mielleux, et la femme finissait toujours par lui donner une paillasse, une gerbe de paille dans l'étable, et une place devant le feu. Comme il ne pouvait pas demander la soupe en même temps, du même coup, il n'était quand même pas un mendiant, et qu'il ne voulait pas payer, il était bien trop rapace, il se faisait son manger. Les bouillons pointus, les bottasses qu'il avalait, vous le devinez, un chien n'en aurait pas voulu. Un coup qu'il avait placé tout un trousseau à une fille de l'Holm qui se mariait et qu'il avait amassé plusieurs braves pièces d'or, il se pensit de faire un régal. Ah donc, il entrit chez la Jean Yaude et quand il eut bien fouiné, il finit par acheter un hareng. Oui, enfants, un gendarme qui puait plus que 500 bocons. Il sortit bien 4 sous de sa bourse pour faire un bon souper. Il demandit à l'agent Yaude que le hareng fût partagé. Peut-être bien qu'il le partagit avec son couteau, n'en ait plus la mémoire, qu'il le partagit pour faire plus de profit. L'agent Yaude lui plia une moitié dans du papier jaune et il attrapit l'autre à poignée et se nallit par la nuit bien noire. Comme il avait une faim de tous les diables, il tira la rangue du papier et avant de le manger, il le sentit. Il le sentit par-dessus, il le sentit par-dessous, il le sentit par côté, pour en prendre autant avec le nez qu'avec la bouche. Tout par un coup, il heurta une pierre et la rang tombit par terre. Bougre de pétard de tas de gueux, sera-t-il peut affiner ? Cherche que cherche, il finit par empoigner la bête. Voilà, il aurait bien mieux fait de ne pas se baisser. Savez ce qu'il ramassit? Un crapaud, pauvre monde. un crapaud aussi gros qu'une soupière, aussi poisseux qu'un pain de beurre. Seulement, c'est tellement dévore ces gloutons d'Auvergnat qu'il a trapi son crapaud sans faire cas de ce que c'était. Pourtant, il lui avait bien fait une bonne pissée par les doigts, car le crapaud est accusé aussi de faire un de vous pisser par les doigts. Se croyant toujours d'avoir son hareng, il reprenait la route. Sans plus attendre, il voulut manger la bête tout de suite, toute crue, sans même lui enlever la peau. Comme il passait devant un fenêtron éclairé, pour se faire rire un brin, il se mit à faire dans son patois, tendant ce qu'il avait à la main du côté du feu, « Aga le feu, bestiole! Aga le feu, bestiole !» Comme si ce matrucrézieux avait suffi pour faire appeler un hareng, même de près. Ah donc, ouvrant le bec, il avalit le pousse-vache, le crapaud, qui se mit à faire une couinée tout à fait terrible. Sans s'y arrêter, tout en mâchonnant, l'Auvergnat fit « Queen, good queen, faut que je te ragouine !» Et pour le sûr, il ragouinit tout cru, tout vivant, d'une bouchée. Fut vite descendu, croyez-le bien. Il continua sa route du côté des Perrichons. Seulement, dès qu'il arrivit à Vizézy, le ventre se mit à lui ronfler, à lui gargouiller. Plus qu'une guêpe dans une baratte. Et je te ronfle, et je te couine, et je te gargouille. Tant et tant que la peur lui prit et qu'il entra chez la chapet pour se coucher. Chez chapet pour coucher. Pas plus tôt, sur sa paillasse, il se mit à enfler comme une vache qui a mangé des trèfles. Il fut aussi gros qu'un seau, puis aussi gros qu'un baquet, puis aussi gros qu'une petite meule. Et tout bleu, tout baveux. Pensez voir ce crapaud qui se démenait les pattes sur son nombril. Il y aurait bien eu de quoi faire crever du brave monde, mais un Auvergnat. C'est si dur que les chats. Baste que ça le tortillait bien. Et la chapette était bien franc d'ennuyer. Elle voulait aller chercher le sorcier Grenéillon, qui savait plus d'un tour, et elle alluma son crésieux. Pauvre homme, tout à coup, elle entendit un bruit si fort que la chasse du diable qui passe par-dessus les maisons. Elle courut de vers l'étable, se pensant que l'Auvergnat avait éclaté. Que vit-elle ? L'Auvergnat qui ouvrait une bouche si grande que le gour du creul, et qui faisait des yeux comme des étoiles, et qui se tenait l'estomac. Et c'était là-dedans que ça ronflait. Waouh ! Par cette grande bouche sortit le crapaud. La chapette disait qu'il était bien aussi gros que sa tête. Et elle avait une bonne pagoche, caboche, pareil. Et il ne sortit pas comme cela. Dans ses petites mains de crapaud, il tenait un affaire tout rouge. Un affaire tout rouge, tout plein de sang. Sur la minute, la chapette fit pas attention, seulement que le crapaud se mit à sauter en direction de la porte. Et quand il passit vers la chapette, il lui fit des yeux tout verts. Et elle vit bien alors ce qu'il portait. C'était le cœur de l'Auvergnat. Quand la chapette fut revenue de sa frayeur, elle songit à l'homme. Il dormait, pas plus enflé qu'un Auvergnat, qui ne mange jamais à sa faim, et elle ne nous a pas l'éveillés. Lendemain matin, sur les 5 heures, elle vint pour traire des vaches. Mon Auvergnat ouvrit les paupières. « Allons, comment ça va ? Zet-t-il pas tout courbattu ? » demanda-t-elle. « Crébougresse, ça te regarde-t-il ? Vieille l'ours mal virée, sale guenille de forésienne, grande carne, grosse truie, sors-moi de là. » La pauvre femme s'en allit tout en courant. Et quand elle revint sur les 4 heures de vêpres, elle avait eu combien peur, il n'y avait plus d'Auvergnat. Pas même sa paillasse, il l'avait emporté. Dans ce moment, l'Auvergnat qui marchait aussi vite que vole un oiseau, tranchant par les bois, dévalant les côtes, sautant par les grimpés, arrivait chez lui du côté d'Ambert. Un pays qu'ils disent qu'il y a derrière les montagnes. Suis jamais allé voir si c'est vrai. Il entrit chez lui. Une matrue maison, pas carrelée, avec du fumier quasi sur la table. Une maison d'Auvergnat, quoi. Et une pauvre femme, si maigre, comme un sang de clou, qui tournait dans un chaudron du patio. « Bonjour donc, mon homme, lui dit-elle. » Comment elle le dit en Auvergnat, saurais pas vous le répéter. « Bonjour donc. Tu es bien fourbu ?»« Viens ici, bougre de l'aide. » répondit l'Auvergnat. « Grand sale souillon, viens ici, tu verras si ma trique est recrue. » « mais pauvre homme, murmura la femme, lève pas la langue plus haut, vois-tu, ça, je t'assomme, gronda l'Auvergnat. » Il aura bu, à droite et à gauche, se pensit la femme, sans rien dire de plus. « Tiens-tu préparé une salade de barbant ? Trois coques rôties, un cul de veau, du pâté ? Mon Dieu, mais il est franc-sous, pensa la femme. « Des barabins à la mi-août, des poulets rôtis que nous n'en avons point, du cul de veau que j'ai à peine 15 sous dans ma bourse. Pour le sûr, ils virent. « Te répondras-tu, vieille cancarne ? Pour en finir, tu me chatouilles, t'es donc !» Et Pan, sortant son courteau, il lui en foutit un coup par le travers des estomacs. Elle chut, raide, toute froide, toute pleine de sang, elle était morte, la pauvre femme. Dieu la préserve. Croyez-vous que ça fit quelque chose à mon Auvergnat? Pas plus que de cracher dans l'eau. Il engouffra le patio, il mangit les cabrions, il finit le miel qui se trouvait dans le coffre, et il s'endormit, le cul viré à sa femme, en se chantant une petite chanson pour pouvoir ronfler. Quand il s'éveilla, il avisit sa femme en riant, puis, sans se presser, il se ferma dans la maison. Il mit le feu au rideau du lit, aux cheveux de sa femme, au babet sur le côté de la cheminée, puis après, il attendit. Ce qu'il trouvit, vous le devinez. Dieu merci, il en creva comme un païen qu'il était. Il ne demeura rien dans la maison, ni des sous qu'il avait amassés. Mes enfants, garez-vous des crapauds. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. S'ils vous pissent par les yeux, ils vous rendent aveugle. S'ils peuvent entrer dans le nombril, ils vous dévorent le cœur. Et voyez bien ce qui peut arriver. Allons, maintenant c'est l'heure de la prière et au lit. Il est temps de se coucher. Demain, il fera jour du côté de la Loire. Thank you.